Je vous propose que, avant de commencer, on puisse prier, que vraiment le Seigneur puisse encore nous bénir ce matin. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Roi, je te remercie de cette grâce que nous avons de pouvoir être dans ta maison ce matin. Merci parce que encore tu nous donnes cette possibilité de pouvoir partager ta parole et ensemble nous faire du bien, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, dans ta présence, Seigneur Dieu. Merci parce que je sais que tu as préparé d'avance ces moments et merci parce que je sais aussi que tu vas m'accorder encore toute ta grâce pour communiquer, Seigneur Dieu, à ton Église, Seigneur Dieu, la pensée que tu as mise sur mon cœur. Alors merci de bénir ces moments, Seigneur Dieu, et que vraiment ensemble, Seigneur Dieu, nous puissions nous faire du bien. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. C'est une joie pour moi encore d'être là ce matin pour pouvoir vous partager encore la pensée qui a été mise sur mon cœur. Et je remercie aussi le Seigneur de ce que le pasteur nous a apporté dimanche dernier, parce que ça a vraiment fait écho dans mon cœur et c'est un peu la continuité ce matin que vraiment je voudrais apporter. Alors sans plus tarder, je vous propose de pouvoir lire deux passages, un passage un peu long dans le livre de Job. On va lire à partir dans le chapitre 36, à partir du verset 22. Ce matin, j'ai vraiment construit mon message sur deux parties vraiment. Deux parties qui vont un peu se confronter, mais vous verrez qu'à la fin, ces deux parties vont aussi s'assembler. Et ma première partie, je l'ai intitulée comme ça, c'est la description du parfait. La description du parfait. Le parfait, quand je dis la description du parfait, c'est vraiment notre Dieu. Ce Dieu parfait, ce Dieu grand et nombreux sont les textes dans la parole de Dieu qui nous décrit notre Dieu, qui nous décrit comment notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Et ce matin, je voulais vraiment prendre le temps avec vous de pouvoir lire plusieurs textes qui nous parlent justement de notre Dieu. Alors nous allons commencer, donc Job chapitre 36 et le verset 22. Il nous est dit ceci: « Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui ? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire « Tu as commis une injustice » Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Les hommes l'ont chanté. C'est ce que tous les êtres humains peuvent la contempler. Chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler et la déversent avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente? Il déploie autour de lui sa lumière, il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre, même le bétail presse son approche. Tout cela fait battre mon cœur, il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux pluies les plus fortes. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. On va continuer au chapitre 38, au verset 1. Il nous est dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de sens ?» Mets donc une ceinture autour de la taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle sortit du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes. Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu le sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles? Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent se déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir de l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre se reste figée? Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur terre? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau se couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Amen. Le texte était un peu long, mais je voulais vraiment qu'on puisse lire tout ce passage. Le contexte de ce verset, de ce passage, surtout du chapitre 38, est un peu particulier. Si vous connaissez un peu l'histoire de Job, Job a vécu beaucoup de choses. Il a été vraiment éprouvé. Plusieurs de ses amis sont venus discourir avec lui pour essayer de le faire raisonner. Et à un moment donné, tout le monde s'est tu. Et puis Dieu lui-même a pris la parole. Le chapitre 38, on voit que c'est Dieu qui parle. Et Dieu va poser plein de questions à Job. Plein de questions qui nous montrent toute la grandeur qu'est la sienne. Es-tu là au commencement? Connais-tu la grandeur de la terre? Peux-tu prendre le mètre et mesurer la taille qu'elle fait? Peux-tu dire à l'éclair d'aller à tel endroit et est-ce qu'il te dit j'y suis? Et on voit ainsi de suite plein de choses comme ça qui nous montrent toute la grandeur de Dieu. Et je voulais vraiment prendre le temps qu'on puisse vraiment lire ce texte. C'est vrai, il est long. Mais je voulais vraiment qu'on puisse s'arrêter un instant. Et c'est vraiment tout l'essentiel de mon premier point, c'est de nous arrêter de comprendre la grandeur de Dieu. Dieu est au-dessus de toute chose. On va prendre d'autres textes qui nous montrent, même s'il y aurait tant et tant de textes dans la Bible qui nous montrent la grandeur de Dieu. Mais j'aimerais peut-être vous en citer un comme ça. Le psaume 19 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Il nous est dit dans Romains que la nature elle-même parle de la gloire de Dieu. Que tous les hommes peuvent se rendre compte rien qu'en regardant la nature combien Dieu est grand. En regardant tout ce qui a été fait sur cette terre. Combien le Créateur de toutes choses est grand. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous ressasser, nous rappeler, nous arrêter encore un instant pour réaliser que notre Dieu est grand. Notre Dieu règne au-dessus de toute chose. On pourrait lire le psaume 29 qui nous parle pleinement encore du règne de Dieu. Je n'avais que l'embarras des choix ce matin par rapport au verset. Je me suis même dit qu'on pourrait passer notre matinée à lire des textes qui nous parlent de la gloire de Dieu. On va lire le psaume 29. « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tous écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. L'Éternel est grand. Tout dans son palais crie gloire. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Et nous voyons combien encore le psalmiste exprime cette grandeur de l'Éternel. Oui, tout n'est que grandeur chez l'Éternel. Tout n'est que grandeur. Nous voyons tout au travers de la parole combien à chaque fois que le Seigneur s'est manifesté dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et comme il le fait encore aujourd'hui, combien l'Éternel peut se révéler dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans toute sa bonté, dans tout son amour. L'Éternel n'est pas seulement grand, l'Éternel est aussi puissant, mais il n'est pas seulement puissant, il est aussi amour, il est aussi compassion, il est aussi grâce, il est aussi miséricorde. Si on s'arrêtait et qu'on prenait tous les attributs de Dieu, on verrait combien notre Dieu est grand. C'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre à cette première partie, la description du parfait. Dieu notre parfait. Celui qui est sans manquement, celui qui est sans faille, celui qui dans lequel on ne peut trouver ni ombre de variation, ni rien qui ne change en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et qui peut nous tromper. Non, Dieu est parfait. Dieu ne manquera jamais de nous aimer. Dieu ne manquera jamais de venir nous soutenir. L'Éternel est revêtu de majesté. Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous montrent combien Dieu est grand. Encore ce passage que je vous cite, Deutéronome 32. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Quelle description encore de notre Dieu. Quelle description encore de notre Dieu. Oui, notre Dieu est vraiment parfait. Notre Dieu est vraiment parfait et j'aime à me rappeler tous ces passages. Je ne sais pas vous, mais personnellement, de savoir que notre Dieu est grand et que notre Dieu règne, ce passage que nous avons lu dans le psaume 29, où nous voyons que l'Éternel était sur son trône lors du déluge, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela me rassure. On pourrait croire que quand le déluge est arrivé, tout a été ravagé, on pourrait presque croire même que l'Éternel avait été dépassé par ces événements, mais non, l'Éternel était sur son trône. Et peu importe ce qui arrive, l'Éternel règne. Et l'Éternel est grand. Je vais rapidement venir sur mon deuxième point, mais j'aimerais encore insister sur ce premier point. Ce matin, je ne vais pas être long. La pensée que j'ai reçue du Seigneur était très claire dans mon cœur. Et je ne vais pas essayer de broder juste pour essayer de dire il faut tenir tant de temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre vraiment toute l'importance de réaliser que notre Dieu est grand. C'est vraiment important de le comprendre dans notre cœur. C'est important de le comprendre et de pouvoir le vivre chaque jour. De ne pas on a vite fait dans notre nature humaine d'être accaparé par tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel que d'avoir nos yeux qui se fixent non pas sur qui est notre Dieu, mais sur ce que nous voyons. C'est sûr que si notre Dieu était tous les jours d'une façon visible à côté de nous, ça serait plus facile de croire, puisqu'on peut le voir, on peut le toucher. Mais Dieu a choisi de se manifester d'une façon différente. Il a placé son esprit en nous et il veut que nous marchions par la foi. Et nous avons besoin de comprendre que notre Dieu est grand et que notre Dieu est merveilleux. Alors j'en viens à mon deuxième point. Mon deuxième point est un peu l'opposé de ce que nous venons de lire. Nous avons lu la description du parfait. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse un peu jeter un œil sur l'imparfait. Alors ce n'est pas du français ce matin que je vais vous faire. Mais la pensée que j'ai reçue du Seigneur pour nous ce matin, c'est celui-là, et c'est le titre que j'ai donné à mon message, c'est « L'imparfait au service du parfait ». Nous venons de voir que notre Dieu était parfait. Et dans cette toute perfection qui est celle du Seigneur, il a choisi, dans sa intelligence, dans sa grâce, dans sa bonté, que ce soit nous qui le servions. Nous, l'imparfait. Nous qui sommes totalement imparfaits. C'est vrai, Dieu nous a créés d'une façon merveilleuse. Et on voit bien des textes où on voit que Dieu nous a fait un corps parfait. Mais pourtant, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je regarde ma vie, malgré tous les efforts que j'essaye de faire, mon service pour Dieu est bien imparfait. Mon service pour Dieu est vraiment très limité. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager. Non nous culpabiliser, mais vraiment nous encourager. Au travers de différents personnages que nous allons voir, que le Seigneur Jésus veut que nous le servions. Vous vous rappelez du texte, un des textes que notre pasteur nous a donné la semaine dernière. Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Et le texte qui faisait référence à Jésus, le zèle de ta maison me dévore. C'était le thème de la prédication du pasteur. Et dans cette continuité, j'aimerais que nous puissions comprendre que le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour le servir, mais il veut simplement que nous le servions. Et il nous faut comprendre que, oui, notre Dieu est parfait. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est vraiment parfait en tout point. Et que nous, justement, nous sommes totalement imparfaits. Mais qu'entre cette perfection et cette imperfection, le Seigneur Jésus est venu. Il a planté cette croix qui est debout. Et il nous a totalement réconciliés avec le Père. Bien sûr que par nos propres forces, nous ne pouvons pas être utiles entre les mains du Seigneur. Mais il nous a donné sa grâce. Il nous a donné son pardon. Il nous a donné sa miséricorde. La croix de Jésus-Christ était là, venue. Jésus est venu sur cette terre mourir sur cette croix. Il a versé son sang, donné sa chair, pour que cet imparfait que nous sommes puisse servir le parfait. Et il nous faut comprendre cela. Il nous faut comprendre que nous pouvons servir le Seigneur Jésus même si nous sommes imparfaits. Le Seigneur Jésus est venu sur cette croix pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Bien sûr qu'il y a cette étape indispensable, être réconcilié avec le Père, l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix ne s'arrête pas simplement à ce jour où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous pouvons être sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais la croix, c'est chaque jour dans nos vies. Nous pouvons, j'ai pris des exemples pour nous encourager, nous pouvons regarder la vie de Pierre. Jésus n'a pas appelé Pierre pendant qu'il était parfait. Jésus n'a pas appelé les disciples alors qu'ils étaient parfaits. Jésus a croisé Pierre et lui dit « Viens et je te ferai pécheur d'homme ». Jésus ne nous appelle pas à ce que nous sommes à l'instant T, mais il nous appelle à ce que nous serons demain. et comme la masse d'argile qui est informe. Mais quand le potier la prend, la met sur le vase et commence à la façonner, ça prend du temps. Mais pour qu'elle soit façonnée, il faut qu'elle soit sur le tour. Et si tu veux que le Seigneur t'utilise, il faut commencer à vouloir servir. Et ne pas attendre d'être parfait, ne pas attendre d'être d'un certain niveau spirituel pour pouvoir commencer à servir. Pierre s'est raté plein de fois. Et ça m'encourage. Merci Seigneur pour Pierre. Pierre a à un moment la foi et le moment instant d'après n'a plus la foi. Seigneur, sauve-moi, je péris quand il marche sur les eaux. Pierre va reprendre Jésus et lui dire « Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. » Alors qu'il ne savait pas que la pensée qu'il venait de dire venait de l'ennemi. Il va dire « Moi, les autres tous t'abandonneront, moi jamais. Jamais je t'abandonnerai. » Et pourtant non seulement il l'a abandonné, mais il l'a aussi renié. Il a dit « Non, non, moi je ne le connais pas. Jésus, non, non, moi je ne le connais pas. » Et pourtant Pierre était au service. Alors il y a eu des ratés. On pourrait regarder la vie de David. Ah, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme selon le cœur de Dieu a bien fait des bêtises. On connaît l'adultère qu'il a eu avec Bathsheba. Cet homme de Dieu a péché. Cet homme de Dieu a couché avec une autre femme qui n'était pas la sienne. Cet homme de Dieu a fait tuer le mari de cette femme. Cet homme de Dieu a menti. J'avais noté ce passage dans 1 Samuel, Samuel verset 21, David fuit devant Saül. Saül cherche à tuer David. David s'enfuit et il arrive devant le sacrificateur et il dit « Moi et mes hommes, nous avons l'ordre du roi d'aller à tel endroit, mais on est parti tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de prendre ni à manger ni des armes. Qu'est-ce que tu as ?» Et il va prendre des pains qui étaient consacrés. Il va mentir parce que il n'avait pas d'ordre du roi. Il fuyait, simplement. L'homme selon le cœur de Dieu. On pourrait regarder Gédéon. Seigneur, pourquoi tu veux m'utiliser? Pourquoi même je pourrais servir? Je suis le plus petit de ma famille, de la plus petite tribu d'Israël. Je suis insignifiant, je ne sers à rien. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ça, il va lui dire, va avec la force que tu as. Et ça va prendre même chez lui un peu de temps avant qu'il réalise qui est vraiment son Dieu. Et que n'importe qui a fait la paix avec lui peut le servir. Parce que la première chose que Dieu va demander à Gédéon, pourtant c'est Dieu lui-même qui va lui demander, et avoir cette manifestation de l'ange, lui dire, il faut que tu abattes les pieux sacrés, ces idoles dans la maison de ton père. Il ne va pas y aller en plein jour, hein. Il va y aller la nuit, mais il va le faire. Il va se mettre au service. On pourrait regarder Samson. Samson a été un juge. Pourtant, la vie de Samson n'a pas été toute droite. Il nous est même dit qu'à un moment, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui et il ne le savait pas. Mais Samson, dans la grâce du Seigneur, est aussi revenu. Et nous voyons tous ces hommes, toutes ces imperfections. L'imparfait que vous êtes, l'imparfait que je suis, peut servir le parfait. C'est une chose qui est, de par notre intelligence, incompréhensible. Comment moi qui suis si imparfait, je peux être utile dans les mains de ce Dieu si parfait? Mais c'est là que toute la grâce du Seigneur prend toute sa mesure. Ce n'est ni par tes forces, ni par tes capacités, mais par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Mais il faut que tu serves. Il faut que tu veuilles te lever. Il faut que tu acceptes d'être imparfait. Bien sûr, il ne faut pas se contenter de cette imperfection. On pourrait prendre des versets... Matthieu 5, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ce verset peut être une source d'encouragement, comme une source de découragement si on ne comprend pas. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quand on voit la description du parfait qu'il y a dans la parole de Dieu, on pourrait se dire, mais comment je pourrais être parfait comme ce Dieu? Soyez saints, puisque votre Dieu est saint. Puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais comment faire? Comment faire? Comment être saint autant que ce Seigneur Jésus, autant que ce Dieu? Mais n'oubliez pas, à l'instant T, nous ne le sommes peut-être pas, mais nous tendons à ça. Il faut que ça soit notre leitmotiv. Je veux être parfait comme mon Père, mais je ne vais pas attendre d'être parfait comme mon Père pour servir. Je ne vais pas attendre d'être parfait comme mon Père pour que le zèle de sa maison me dévore. Je ne vais pas attendre d'être parfait pour pouvoir me lever et servir le Seigneur. Va avec la force que tu as. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. L'imparfait au service du parfait. C'est vrai que c'est incompréhensible. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur veut. À nous de le désirer également. Parce que dans la toute-puissance de Dieu, on n'a jamais vu dans la Bible que Dieu a forcé un homme, une femme, à le servir. C'est toujours venu du cœur. Et je voulais vraiment vous encourager au travers de ce sujet, dans la grâce qui est la nôtre, que de pouvoir servir ce maître si grand, si puissant. Je voulais vraiment qu'on puisse peut-être faire tomber certaines barrières, certains préjugés dans nos têtes, certaines limites que nous nous mettons. Non, mais ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour moi. Ah, regarde, Vincent, il est sur l'estrade, lui, il est bien, il a reçu quelque chose. Non. Dimanche après dimanche, je suis assis à côté de vous. Ça m'est encore plus facile de vous partager cela, parce que je le partage à moi-même. Ce n'est pas comme si j'étais pasteur et que j'avais reçu une onction particulière et on pourrait se dire, ah, mais ça, c'est pour le pasteur. Non, mes frères et sœurs, je suis avec vous, nous sommes un. Nous sommes tous ensemble. Et ensemble, le Seigneur veut nous faire grâce. Ensemble, le Seigneur veut que nous marchions. Ensemble, le Seigneur veut se révéler au travers de nous. Ensemble, le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Le Seigneur veut nous utiliser pour manifester sa puissance au travers de nous. Le Seigneur Jésus veut nous utiliser pour que nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur soient sauvées. Le Seigneur Jésus veut nous utiliser. Et nous ne nous cachons pas derrière certains raisonnements, certaines choses qui peuvent nous mettre des freins. On dit non, ça je peux pas. Ça je peux pas, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Mais parce que je suis imparfait. Mais personne n'est parfait. Tous ceux qui ont servi dans la parole de Dieu sont imparfaits. Mais ont été qualifiés par le Seigneur Jésus. Au fur et à mesure de leur marche, le Seigneur a gommé leur imperfection. Le Pierre qui était instable, le Pierre qui était fougueux, est devenu un Pierre stable, sur lequel le Seigneur Jésus a pu fonder son Église, sur lequel il a pu dire à la foule entière, « Vous avez renié le Maître !» Alors que c'était lui qui l'avait renié. Mais il a pu le dire parce que le Seigneur Jésus l'a réconcilié, le Seigneur Jésus l'a reconstruit de l'intérieur. Il lui a dit, « Ok, je te pardonne. » Pierre est venu avec ses larmes, pleurer amèrement sur tout ce qu'il avait vécu. Parce qu'on peut se rater. Et que le Seigneur Jésus attend que d'une chose de nous, c'est que quand on se rate, on revienne à cette croix et lui dire, « Écoute Seigneur, je te demande pardon. Là, je me suis raté. Là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. » Et on voit toute la restitution, combien Pierre a été totalement rétabli, au point de pouvoir dire à tous ces Juifs qui étaient devant lui, « Vous avez renié le Maître !» Mais pas parce que d'un coup Pierre était parfait, mais parce qu'il avait compris toute la grâce, toute la miséricorde du Seigneur à notre égard, et tout le privilège qui était le nôtre. Nous avons le privilège de servir le parfait. Nous avons le privilège de voir le parfait agir dans nos vies. Et nous avons le privilège d'être le prolongement de sa main, le prolongement de sa parole. Nous avons cette grâce-là qui est devant nous. Je ne vais pas Je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Mais je veux qu'on puisse prier. On va prendre 5 minutes pour prier. On a du temps. Je sais que j'ai été court. Mais on va prendre 5 minutes pour prier. Et pour que nous puissions réaliser ce que le Seigneur Jésus veut nous rappeler ce matin. L'œuvre de la croix est une œuvre puissante. L'œuvre de la croix, ce Jésus qui est venu sur cette terre pour mourir sur le bois de la croix, nous a donné la victoire sur le péché, nous a donné l'immense miracle, l'immense privilège de passer des ténèbres, de la mort, à cette vie merveilleuse. Mais non seulement ça, c'est déjà immense, mais en plus, elle nous donne la possibilité de pouvoir nous mettre au service du grand roi, de nous mettre au service de ce parfait, alors que nous puissions réaliser ce matin ce privilège qui est le nôtre, et que dans nos cœurs, chacun pour notre part, nous puissions peut-être remettre entre les mains du Seigneur tous nos raisonnements, toutes nos limites, tout ce que, là où nous avons fixé les limites à notre Dieu en lui disant « Mais non, là tu ne pourras pas agir parce que je suis imparfait, parce que là j'ai trop de manquements. » Mais que vraiment, nous puissions déposer toutes nos vies. Comme ce chant le disait, « À toi nos vies, à toi nos cœurs. » Mais que tout ce qui est dans notre vie puisse être entre les mains du Seigneur. Et que nous puissions dans nos cœurs se résoudre. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, peut-être que jusqu'à présent, je me suis arrêté en route. Peut-être que je me suis contenté de ce que je faisais. Peut-être que je me croyais trop sale, trop imparfait, trop inutile pour pouvoir te servir. Mais le Seigneur Jésus voudrait t'encourager ce matin et te dire non. Ma fille, mon fils, mets-toi à mon service. Moi, je te qualifierai. Moi, je te donnerai mon esprit. Et je marcherai devant toi, comme l'Éternel a marché devant le peuple. Jour et nuit, il était là. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Et comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Le Seigneur t'appelle pas à ce que tu es aujourd'hui, mais à ce que tu seras demain. Quand Jésus a appelé Pierre, il savait que Pierre serait ce rocher sur lequel il fonderait son Église. Mais quand il a appelé Pierre, Pierre n'était qu'un simple pêcheur, un pêcheur de poissons. Il y avait tout à changer en lui. Mais Pierre, avec ses manquements, ses erreurs, ses réussites, il s'est mis au service du Maître. Et le Seigneur l'a qualifié, l'a fait grandir. Et c'est ce qu'il veut avec toi ce matin. Alors qu'ensemble nous puissions remercier le Seigneur. Oui, qu'ensemble nous puissions élever son nom pour ce qu'il fera dans nos vies. Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu, parce que tu es ce Dieu grand, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Parce que tu es ce Dieu qui dépasse toute intelligence, ta grandeur est incalculable et non mesurable. Ton amour est si infini, qui peut mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour? Qui peut le faire? Et c'est dans cet amour-là que nous voulons nous plonger, nous imparfaits, pour nous mettre au service du parfait. C'est ce que nous voulons, Seigneur Dieu. Non pour notre propre gloire, mais pour ta gloire, Jésus. Non pour notre propre satisfaction, mais pour que toi, tu sois glorifié. Et qu'au travers de nous, ton nom soit glorifié. Oui, ton nom, Jésus. Ton nom soit glorifié. Merci de bénir notre Église. Merci de bénir notre Assemblée. Que ton Saint-Nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.